France pourrait rougir de haine. Esclave n'a pas de remède.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique au micro, Idrissa Seydoudia, bonjour. Le peuple contre le coup d'État, au moins 6000 personnes sont descendues dans la rue hier à Tunis pour la plus importante manifestation contre le président Kais Saied depuis qu'il s'est arrogé les pleins pouvoirs le 25 juillet dernier. Elle répondait à l'appel de différentes formations opposées à M. Kais Saied, dont le parti d'inspiration islamiste Ennahda, une semaine après une démonstration de force en faveur du président tunisien, qui avait rassemblé plus de 10 000 de ses partisans dans toute la Tunisie, selon des sources policières. L'Algérie n'a pas encore pris de décision définitive sur la reconduction d'un contrat d'utilisation d'un gazoduc passant par le Maroc, qui doit expirer le 31 octobre, a indiqué hier soir le président Abdelmadjid Tebboune. Il répondait à un journaliste qui lui demandait s'il y aurait plus de gaz algérien au Maroc après l'expiration de ce contrat. Alger a rompu ses relations diplomatiques avec Rabat fin août, se plaignant des actions hostiles du royaume, une décision complètement injustifiée selon le Maroc. Les États-Unis et le Royaume-Uni ont alerté lundi d'une menace sécuritaire sur les hôtels de Kaboul, notamment l'hôtel de luxe Serena, sans en préciser la teneur, et ils ont demandé à leurs ressortissants de ne pas y rester et d'éviter la zone. Des responsables américains et talibans ont eu des entretiens francs et professionnels samedi et dimanche au Qatar sur les droits humains, plus particulièrement la participation des femmes et des filles à tous les niveaux de la société afghane, les problèmes de sécurité, de terrorisme, sur la sécurité de voyage des citoyens américains, des autres ressortissants étrangers et de nos partenaires afghans, a précisé le porte-parole du département d'État, Ned Price. Il a été aussi question de la mise à disposition d'une aide humanitaire conséquente de la part des États-Unis, directement dirigée vers le peuple afghan. Les talibans cherchent à obtenir la reconnaissance de la communauté internationale ainsi qu'une assistance pour éviter une catastrophe humanitaire dans leur pays. Le taux de participation préliminaire aux législatives anticipées en Irak a atteint 45,41%, a annoncé tôt ce matin la commission électorale, soit une abstention plus forte qu'au dernier scrutin de 2018. Ce pays riche en pétrole est confronté à une corruption endémique et à une pléthore de factions armées. Au moins 6 personnes ont péri hier dans un attentat à la voiture piégée dans le sud du Yémen contre un convoi de responsables gouvernementaux qui roulait à Aden. Ces derniers ont, eux, survécu à cette dernière attaque en date dans ce pays ravagé par la guerre. Deuxième ville du pays, Aden est la capitale provisoire du pouvoir yéménite en guerre depuis 2014 contre les Houthis, les rebelles chiites qui ont conquis une grande partie du nord du pays, dont la capitale Sanaa. Taïwan ne cédera pas aux pressions de la Chine et défendra son système démocratique, a assuré dimanche la présidente Tsai Ing-wen, après un nombre record d'incursions d'avions militaires chinois près de l'île ces derniers jours. En Autriche, le ministre des Affaires étrangères, Alexander Schallenberg, devient ce lundi le nouveau chancelier du pays. Il a déclaré hier qu'une tâche extrêmement difficile l'attendait au lendemain de la démission du conservateur Sebastian Kurz, soupçonné d'être impliqué dans une affaire de corruption. Le conseil d'administration du FMI n'est pas parvenu hier à trancher la question du maintien ou non de la directrice générale Kristalina Georgieva, accusée d'irrégularité quand elle était à la Banque mondiale, selon un communiqué. La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a exprimé hier sur la chaîne ABC sa confiance dans le relèvement du plafond de la dette publique américaine par le Congrès le 3 décembre pour éviter le risque d'un défaut de paiement des États-Unis. Après des semaines de lutte partisane, le Sénat est parvenu jeudi à un accord temporaire sur un relèvement de plafond de la dette jusqu'au 3 décembre. La suite de nos informations. Au Burkina Faso, le procès de l'assassinat en 1987 de l'ex-président Thomas Sankara lors d'un coup d'État s'ouvre ce lundi devant le tribunal militaire de Ouagadougou. Les détails avec Yacouba Ouédraogo.
Parmi les 14 principaux accusés, l'ancien président Blaise Compaoré, 70 ans, qui vit en exil en Côte d'Ivoire, où il a obtenu la nationalité ivoirienne. Le procès va se tenir en son absence, lui qui a pourtant pris le pouvoir lors du putsch de 1987. Il s'y est maintenu pendant 27 ans avant d'être renversé suite à une insurrection populaire en 2014. Pour justifier son absence, les avocats de M. Compaoré dénoncent, je cite, un procès politique devant une juridiction d'exception. Est aussi poursuivi dans cette affaire le général Gilbert Diendéré, 61 ans, un des principaux chefs de l'armée lors du putsch de 1987. Il purge présentement une peine de 20 ans de prison pour une tentative de coup d'État en 2015. Tous deux sont accusés de complicité d'assassinat, recel de cadavres et d'attentat à la sûreté de l'État. Des soldats de l'ancienne garde présidentielle de Compaoré, dont l'ancien adjudant-chef Hyacinthe Kafando, accusé d'avoir été le chef du commando et en fuite, font partie des prévenus. Arrivé au pouvoir par un coup d'État en 1983, Thomas Sankara a été tué le 15 octobre 1987 avec 12 de ses compagnons par un commando lors d'une réunion au siège du Conseil national de la Révolution à Ouagadougou. Il avait 37 ans.
Un éventuel retour de l'ambassadeur d'Algérie en France, rappelé au début du mois à Alger, est conditionné au respect total de l'État algérien par Paris, a déclaré hier le président Abdelmadjid Tebboune. Le point avec Michel Joseph.
Le retour de l'ambassadeur d'Algérie en France est conditionné au respect de l'Algérie, le respect total de l'État algérien. On oublie qu'elle a été un jour une colonie française. L'histoire ne doit pas être falsifiée, a affirmé le président Abdelmadjid Tebboune dans sa première déclaration publique en réaction aux propos du président français. Il a ajouté qu'on ne peut pas faire comme si de rien n'était. Le président Emmanuel Macron a déclenché la colère d'Alger après des propos rapportés le 2 octobre par le journal Le Monde, accusant le système politico-militaire algérien d'entretenir une rente mémorielle en servant à son peuple une histoire officielle qui ne s'appuie pas sur des vérités. Le président français a affirmé que la construction de l'Algérie comme nation est un phénomène à regarder. Est-ce qu'il y avait une nation algérienne avant la colonisation française ? Ça, c'est la question. Ces déclarations ont heurté l'opinion algérienne. Le 2 octobre, Alger a rappelé immédiatement son ambassadeur à Paris et interdit le survol de son territoire aux avions militaires français de l'opération anti-djihadiste Barkhane.
En Virginie-Occidentale, ici aux États-Unis, arrestation et inculpation d'un couple, dont un ingénieur de la marine américaine, pour espionnage nucléaire au profit d'un gouvernement étranger. C'est ce qu'a annoncé hier la justice américaine. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
Pendant près d'un an, l'ingénieur nucléaire de 42 ans, Jonathan Toibi, aidé par son épouse de 45 ans, Diana, ont vendu des informations protégées sur la conception de navires de guerre à propulsion nucléaire à une personne qu'il croyait être le représentant d'une puissance étrangère. Cette dernière était en réalité un agent du FBI sous couverture, selon le ministère de la Justice. D'après les extraits des échanges publiés par le parquet fédéral, l'ingénieur, basé à Annapolis, dans le Maryland, a reçu entre juin et août des paiements en crypto-monnaie pour 100 000 $ en échange d'informations confidentielles liées au réacteur nucléaire du sous-marin. Ces données étaient contenues dans des cartes cryptées déposées dans des lieux convenus à l'avance en Virginie-Occidentale. Inculpé pour violation de la loi sur l'énergie atomique, les Toibi comparaîtront demain mardi pour la première fois devant le tribunal fédéral de Martinsburg en Virginie-Occidentale.
La Minute Éco, Rosine Mounézéro.
L'industrie cinématographique africaine peut créer 20 millions d'emplois et contribuer à hauteur de 20 milliards de dollars du PIB de l'Afrique, estime l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO. Son rapport intitulé « L'industrie du film en Afrique, tendance, défis et opportunités de croissance », publié le 5 octobre, cite l'exemple du Nigeria où l'on produit 2500 films par an. Pour réaliser son potentiel, le cinéma africain doit toutefois se débarrasser de nombreux problèmes, entre autres le piratage qui, selon le rapport de l'UNESCO, cause des pertes de 50% des recettes potentielles et aussi les entraves à la liberté d'expression. Les nouvelles autorités de la Zambie, premier pays africain à avoir fait défaut depuis le début de la pandémie de Covid-19, ont annoncé jeudi que le pays devait 2 milliards de dollars de plus que prévu à ses créanciers étrangers. Dans cette dette, le pays d'Afrique australe doit 5,75 milliards de dollars à la Chine, soit 6,18 milliards de dollars en comprenant les intérêts impayés, a déclaré le ministre des Finances Sitombeko Moussokotouane. Le gouvernement sollicite activement le FMI pour un programme de fonds visant à fournir une base à notre restructuration de la dette, a dit le ministre des Finances. L'Agence nationale des ports du Maroc a lancé la construction d'un nouveau terminal de croisière au port de Casablanca. Le délai prévu pour l'exécution des travaux est de 24 mois pour un coût estimé à 456 millions de dirhams, soit environ 50,2 millions de dollars. Une fois achevée, cette infrastructure aura une capacité d'accueil de 450 000 croisiéristes par an, rapporte l'agence Ecofin.
Merci Rosine. Et maintenant les sports avec Élisée Ongpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Du football au programme avec les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 zone Afrique et la Tunisie se rapproche des barrages.
Oui, les Aigles de Carthage qui étaient sur une bonne série de 3 victoires ont été accrochés à Nouakchott par la Mauritanie 0-0. Un résultat qui ne change rien au classement. La Tunisie toujours en tête du groupe B avec 10 points, 3 de plus que la Guinée équatoriale auteur d'un nul 1-1 en Zambie. Le Mali aussi reste en tête du groupe E après avoir battu 1-0 le Kenya. Les Aigles restent encore sous la menace de l'Ouganda qui a battu sur le même score le Rwanda. Et puis, le Nigeria s'est repris face au Centrafricain qu'il a battu il y a 3 jours. Les coéquipiers de Victor Osimhen, buteur hier, ont battu les Fauves du Bazoubangui 2-0. Un succès qui leur permet de prendre 2 points d'avance sur le Cap-Vert qui a réalisé le service minimum devant le Libéria.
Le Bénin rate l'occasion de prendre le large dans le groupe J.
Tout à fait. La faute à ce revers concédé à domicile devant la Tanzanie, qu'il avait pourtant battu à l'aller. Les hommes de Michel Dussuyer ont été surpris dès la 6e minute par Simon Nsouva, unique buteur de cette rencontre. Les Béninois se sont mis en difficulté pour la suite des éliminatoires dans le groupe J, où les 3 premiers ont encore la possibilité de se qualifier pour les barrages. Déçu, le sélectionneur des écureuils reste tout de même confiant pour la suite. Michel Dussuyer.
On a fait une entame de match catastrophique et on a couru derrière tout le temps. Je ne sais pas, quand il y a une équipe qui court et une équipe qui ne court pas, ça devient compliqué. Il faut courir pour défendre, il faut courir pour attaquer. Et en plus, avec un manque de concentration évident, donc il faut des fois un petit peu de réussite aussi, comme l'a dit le coach tanzanien. Quoi. Donc maintenant, c'est le football qui est comme ça. Hein. Maintenant, il faut regarder dehors. Je sais que le public est déçu, c'est normal, c'est légitime. Ça fait longtemps que le Bénin n'a pas perdu au stade de l'amitié.
Le Bénin pourra se reprendre en novembre prochain avec la réception de Madagascar, qui a retrouvé enfin le sourire après sa victoire de 1-0 devant la RDC. Son premier succès après 3 journées.
La suite des matchs de cette 4e journée, aujourd'hui avec 5 matchs au programme.
Et à partir de 17h temps universel, le Cameroun tentera de recoller à la Côte d'Ivoire qui joue 2 heures plus tard à Cotonou contre le Malawi. Et pour cela, les Lions indomptables sont condamnés à la victoire à Agadir devant le Mozambique. Victoire ou rien également pour le Gabon mal en point dans le groupe F et qui reçoit l'Angola. De son côté, le Burkina Faso n'aura pas 3 forcés à domicile devant Djibouti qu'il a déjà battu à l'aller. Puis, la Libye a une revanche à prendre devant l'Égypte qu'elle rencontre à partir de 19h UTC.
Élisée, le sans-faute continue pour le Sénégal et le Maroc en attendant leur 4e match prévu pour demain.
Effectivement, Idrissa, les deux Lions font le plein de points et se rapprochent des barrages. Le Sénégal, vainqueur 4-1 de la Namibie à Thiès, signe sa troisième victoire de rang dans la poule H, ce qui réjouit Bounassa, qui est à ses débuts avec les Lions de la Teranga. Il est au micro d'Amédine Si.
Je pense que c'est l'adaptation, l'environnement. C'est vrai que c'est un premier match pour moi en compétition officielle. Voilà, il y a eu demi-temps, mais pour un premier match, on va dire que c'est pas mal. À moi de continuer à m'adapter. Et énormément de choses qui sont dites par rapport à ma venue au Sénégal, on va pas se le cacher. Moi, il n'y a qu'une chose sur laquelle je me concentre, c'est le terrain. Je suis très fier d'être ici, je suis très content d'être avec mes nouveaux coéquipiers. Et c'est à moi de donner à l'équipe nationale.
Le Sénégal, premier du groupe H devant la Namibie, suivi du Congo-Brazzaville et le Togo, qui se sont quittés dos à dos à Lomé, un but partout. Troisième victoire également en autant de matchs pour le Maroc, 3-0 face à la Guinée-Bissau. Les Lions de l'Atlas jouent demain leur match en retard contre la Guinée-Conakry.
Merci Élisée. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie, Idrissa Seboudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. L'emblématique procès de l'affaire Thomas Sankara s'ouvre ce matin à Ouagadougou, au Burkina Faso. Un procès tant attendu par les Burkinabés, la famille du capitaine Sankara, les avocats et des organisations de la société civile. Ce procès devrait permettre de savoir ce qui s'est passé le 15 octobre 1987 et a entraîné l'assassinat de l'ancien président Sankara et de 12 de ses compagnons, selon Lamine Traoré, notre correspondant à Ouagadougou.
Absolument. 34 ans après son assassinat, les Burkinabés pourront connaître la vérité sur la mort de Thomas Sankara et de 12 de ses compagnons le 15 octobre 1987 au Conseil de l'Entente à Ouagadougou.
Je suis très content. L'ancien président Blaise Compaoré devait être attendu pour ce procès et que malheureusement, il semble qu'il ne serait pas là. Ça serait vraiment regrettable. On attendait vraiment qu'il soit là afin qu'il puisse donner sa version.
Ça va en tout cas permettre aux Burkinabés ou au monde entier de savoir pourquoi. Et un tel acte, une telle barbarie, c'est l'espoir de tout un continent qui s'est effondré ce jour-là.
Nous attendons ce procès depuis plus de 34 ans. Qu'il y ait la vérité, toute la vérité par rapport à l'assassinat de Thomas Sankara le 15 octobre 1987.
L'ouverture de ce procès Sankara est un miracle pour Luc Damiba, secrétaire général du Comité international mémorial Thomas Sankara.
Ce matin est une victoire d'étape, le combat va continuer pour la sauvegarde de la mémoire de Thomas Sankara, de la révolution, de son idéal. Au Burkina, bien sûr, avec la matérialisation physique du mémorial Thomas Sankara, mais aussi à travers l'Afrique et le monde.
14 personnes sont accusées dans ce dossier. Blaise Compaoré en exil en Côte d'Ivoire depuis sa chute en 2014 et le général Gilbert Diendéré qui purge une peine de 20 ans pour la tentative de coup d'État de 2015 sont les principaux accusés. Les avocats de l'ancien président Blaise Compaoré ont annoncé son absence du procès, dénonçant un procès politique. Maître Bénin Wendy Sankara, l'un des avocats de la partie civile, estime que la justice burkinabé aura tout fait pour que Blaise Compaoré comparaisse à ce procès.
La justice burkinabé, le juge d'instruction, a usé de toutes ses prérogatives pour que M. Blaise Compaoré comparaisse. Et il ne l'a pas fait. Et le seul argument juridique qui a été invoqué, c'est sa nationalité ivoirienne. Donc, il s'est enveloppé de cette nationalité-là pour ne pas comparaître.
Les principaux accusés, Blaise Compaoré et le général Gilbert Diendéré, sont accusés de complicité d'assassinat, recel de cadavres et d'attentat à la sûreté de l'État. Ce procès risque d'être amputé du volet international du dossier, puisque, après la disjonction, seule l'instruction sur le volet national du dossier est close, a prévenu dans un communiqué le réseau international Justice pour Sankara. Aussi, nous exhortons les avocats des victimes civiles à faire en sorte que le tribunal évoque tout de même cette partie du dossier, au vu des éléments nouveaux de l'enquête, notamment l'arrivée de Français le 16 octobre 1987 pour nettoyer les écoutes téléphoniques, a indiqué le communiqué. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Au Cameroun, nouvelle offre de paix du gouvernement aux séparatistes en zone anglophone. 4 jours durant, le premier ministre Joseph Dion Nguté, mandaté par le président Paul Biya, a consulté diverses personnalités de la région du Nord-Ouest et demandé aux jeunes qui combattent l'armée depuis près de 5 ans de déposer les armes. De Yaoundé, notre correspondant Emmanuel Jultap.
À l'issue de ces consultations, certains élites de la région du Nord-Ouest rencontrées par le Premier ministre Abamenda sont optimistes sur la portée de la nouvelle offre de paix aux bandes armées. Achiro Kilo, élite du Nord-Ouest et membre du gouvernement.
Il faut que les élites assistent le président de la République pour ramener la paix, surtout à nos enfants qui sont dans la brousse, en leur rappelant le fait que le chef de l'État maintient encore ce qu'il a dit. Ceux qui vont sortir de la brousse, déposer leurs armes, ne seront pas amenés devant la justice.
La région du Nord-Ouest compte 7 départements. L'un d'eux, la Mentioum, regorge de nombreuses bandes armées. Pour un retour à la paix, les élites ont plaidé auprès du Premier ministre pour des projets de développement dans le département. Richard Walang Eboua, député RDPC de la Mentioum.
Le plan présidentiel de reconstruction et développement convoque ça physiquement dans la Mentioum.
Et comme c'est un département qui est frontalier avec le Nigeria, et les sécessionnistes utilisent ça pour passer avec leur matériel.
Les chefs traditionnels du Nord-Ouest ont quant à eux proposé au Premier ministre de créer des emplois en faveur des jeunes pour qu'ils ne soient plus enrôlés par les leaders de groupes armés qui opèrent dans la région.
La visite du Premier ministre ne va pas ramener la paix.
Dr Nick Ngwanyan est originaire du Nord-Ouest. Il pense que la sortie des crises passe par d'autres solutions.
Nous avons besoin d'un vrai dialogue inclusif où tout sera mis sur la table pour solutionner les problèmes politiques, les problèmes d'éducation, les problèmes économiques de la nation, solutionner les problèmes de développement.
À l'entame de son séjour dans la région du Nord-Ouest, des coups de feu attribués aux séparatistes ont interrompu un échange entre le Premier ministre et les populations du village Matazem, limitrophe au Nord-Ouest. John Goutier a néanmoins déroulé son offre de paix une fois arrivé à Bamenda.
Je suis venu ici comme messager de la paix du président Paul Biya. Cette souffrance doit finir. Nous devons contribuer pour que cette souffrance finisse. Mais si nous n'avons pas la paix, nous ne pouvons résoudre aucun problème.
Avant Bamenda, le Premier ministre a d'abord séjourné à Boya, dans la région du Sud-Ouest. Mais les séparatistes continuent à dicter leurs lois dans les deux régions anglophones et imposent chaque lundi une journée ville morte, largement suivie par les populations apeurées. Yaoundé, Emmanuel Jumtap, VOA Afrique.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le sommet Afrique-France a eu lieu vendredi dernier à Montpellier en France, excluant pour la première fois les chefs d'État africains au profit de la société civile. Venus de toute l'Afrique et de la diaspora, de jeunes Africains ont exprimé directement au président Emmanuel Macron leurs attentes et frustrations sur la démocratie et la relation avec l'Hexagone. Que retenir de ce format et des échanges? Yacouba Ouédraogo a joint à Ouagadougou, au Burkina Faso, l'analyste politique Lionel Bilgo.
Je pense très sincèrement que ce format ne change rien du tout à l'esprit de la France-Afrique ou de l'Afrique-France, si vous voulez. Ça n'empêche pas la jeunesse africaine et l'Afrique tout entière de vomir le système politique africain de la France et de chercher des alternatives pour pouvoir sortir de ce rapport déséquilibré entre la Grande France et ses anciennes colonies africaines.
Est-ce que vous pensez qu'à l'époque des sommets Afrique-France entre chefs d'État, il y avait un discours aussi franc, hein?
Oui, je pense que la diplomatie exigeait à certains chefs d'État de ne pas rendre public les discours de vérité qu'il y avait autour de ces tables. Vous vous souviendrez que parfois, certaines rencontres étaient à huis clos, en dehors de la presse. Donc, il a pu se dire, entre certains chefs d'État et le chef d'État français, certaines vérités que les populations n'ont pas pu entendre. Dans ce format actuel, c'est le côté événementiel et grand show à l'américaine du président français et de telle jeunesse africaine-là qui laisse un peu à désirer et qui me font penser en tant qu'analyste que nous sommes en train de passer à côté de l'essentiel, c'est-à-dire de recontextualiser le ras-le-bol en fait, qui amène à justement le président Macron a échangé avec la jeunesse africaine.
Peut-être que ces échanges justement avec la jeunesse africaine lui permettent de prendre réellement le pouls de la situation.
Je pense qu'avec les officines françaises bien implantées et bien installées sur le continent africain, rien de ce qu'un jeune aurait pu dire à Montpellier n'avait déjà été entendu ou dit par ces rapports continus que le président français reçoit à longueur de journée de ses représentations diplomatiques basées sur le continent africain. La fin de la France-Afrique ne viendra pas d'un désir d'un président français, mais viendra d'un changement d'attitude et de posture des Africains eux-mêmes et des dirigeants africains. Ce n'est pas au président français de libérer l'Afrique ou de changer sa manière de traiter avec les Africains, c'est aux Africains de changer leur attitude vis-à-vis de la France.
On a entendu aussi Macron dire que tout ce que les chefs d'État africains lui demanderont, il le fera, notamment parlant de ses bases militaires françaises dans le Sahel, parlait également du franc CFA. Il a dit juste qu'il attendait qu'on lui dise ce qu'ils veulent qu'il fasse.
Moi, je pense que c'est encore là un discours populiste qu'il tient là. On sait très bien que le système France-Africain est un système très bien rodé et très bien huilé. C'est un système qui a déjà déstabilisé plusieurs pays africains. Les chefs d'État africains sont conscients également que leur discours ou que leur refus radical à telle ou telle proposition de la France pourrait avoir des conséquences sur leur stabilité. Donc nous sommes vraiment dans un jeu diplomatique. Le discours ne tient pas le fond. Et le fond ne correspond pas réellement au discours ni de la bouche d'Emmanuel Macron, ni de la bouche de nos chefs d'État. Mais dans tous les cas, la France-Afrique prendra fin par une attitude nouvelle de la jeunesse africaine. Et je crois qu'elle est déjà en marche pour adopter cette attitude-là.
L'analyste politique Lionel Bilgo.
VOA Afrique en direct de Washington.
Au Tchad, le cancer, l'une des causes de la morbidité et de la mortalité des populations, cela est dû, selon notre correspondant sur place, au manque d'un plateau technique de prise en charge des personnes atteintes de la maladie. Le programme national de lutte contre le cancer, mis en place en avril 2014 par le ministère de la Santé publique, vise donc à améliorer la qualité de vie des malades et de leurs proches en intensifiant des actions en matière de prévention et de lutte contre ce fléau, nous dit notre correspondant à N'Djamena, André Kodmadjingar.
Selon les experts, 70% des cas de décès imputables au cancer sont en réalité évitables. Il suffit d'éviter les 5 principaux facteurs de risque qui sont liés directement au comportement de l'homme.
Alors, l'obésité et le surpoids. Il faut privilégier la consommation de légumes et de fruits. Aussi, le manque d'exercice physique et le tabagisme. Le tabagisme est parmi les principaux facteurs de risque du cancer, notamment le cancer poumons et la consommation d'alcool.
Docteur Fatima Ahmad Abdraman Agar, oncologue médicale et coordonnatrice du programme national de lutte contre le cancer, elle donne la statistique du Tchad.
En 2020, il y avait un total d'environ 300 cas de tout organe confondu qui ont été enregistrés dans 2 de nos services. Mais ces données ne représentent pas la réalité. Parce que selon GloboCan, on devrait enregistrer 8575 nouveaux cas et environ 6080 cas imputables au cancer.
Pour la coordinatrice, beaucoup d'efforts ont été faits par le ministère de la Santé publique et ses partenaires à travers le programme national de lutte contre le cancer pour la prise en charge efficace des malades.
Par exemple, le Tchad vient de joindre le rang des États qui se sont dotés d'un registre de cancer, qui est un outil indispensable dans la lutte contre le cancer. En plus, nous avons en ce moment vouloir construire le tout premier centre hospitalier qui répond aux normes international. Avec ce centre, nous serons en mesure de prendre en charge des personnes atteintes du cancer au Tchad et même dans la sous-région.
Dr Manikassé Palouma, président de la Ligue tchadienne pour la lutte contre le cancer, loue les efforts du gouvernement visant à lutter contre ce fléau, mais estime que cela n'est pas suffisant.
Et la Ligue tchadienne de lutte contre le cancer a lancé un appel au gouvernement cette année pour qu'en urgence, qu'on puisse initier une unité de prise en charge des soins palliatifs, ne serait-ce que pour accompagner les malades.
Genoyou Moudjine Lambaye, enseignante de profession, testée positive en 2007, vit avec la maladie jusqu'aujourd'hui.
Le premier jour, comme ils l'ont écrit dans le carnet, que tumeur du côlon. Et moi, je ne savais pas qu'est-ce que le mot tumeur. Donc, c'est après, j'ai demandé à un médecin quand il a dit que c'est le cancer. Et quand il a dit que c'est le cancer, là, les larmes, là, coulent à sel. Quand tu as le cancer, là, tu vas mourir. Pour moi, là, c'est fini. S'il vous plaît, monsieur le journaliste, vous pouvez m'excuser un peu.
En dehors du cancer de sein, du foie et colorectal qui sont récurrents au Tchad, docteur Malika C. Paluma a indiqué qu'il y a un autre type de cancer qui se développe chez les femmes ces derniers temps. Une étude parcellaire révèle que plus de 50 femmes possèdent déjà le virus HPV qui est cancérigène et que ces femmes méritent un suivi médical. André Godoumadjingar Ndjamena pour VOA Afrique.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Sedoudia et de Michel Joseph à la mise en onde. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.